100% CO avec Cyril Masson, Jean-Marie Jens et David Petitjean.
Bienvenue sur 100%, comme dirait Alain Gaillard, que nous saluons. Bienvenue et à tous les amoureux du Castres Olympique. Bonsoir Jean-Marie Jens qui est avec nous.
Salut David, salut la rugby family.
Et bonsoir Cyril Masson.
Salut David, salut à tous. Très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de 100% CO. On a fait dans le luxe pour l'invité d'aujourd'hui, puisque c'est David Daricarrère, l'entraîneur des arrières du Castres Olympique, qui nous accompagne. Salut David.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors David, tu parlais, David Petitjean, oui. Juanito, je vais t'appeler pour pas qu'on se trompe. Tu parlais d'Alain Gaillard, mais évidemment on le salue parce que ouais. c'est le tonton du rugby sur 100% Alain. Il m'a envoyé des textos aujourd'hui. Toute la journée, pour tout vous dire. Lui, il maintient que l'arbitre n'aurait pas dû siffler essai de pénalité contre Bayonne.
Il y a une polémique.
Ils
veulent réétudier la règle. Je pense que
avec voir rugby. Mais voilà, justement, toi, David, qu'est-ce que tu en penses, cet essai de pénalité qui a été sifflé sur le match? On a appris. Le patron des arbitres s'exprime dans un article ce lundi.
Moi, je l'ai lu,
bien entendu. Et alors, il explique, il dit que. Il y a quelques jours, et lui, il aurait dit essai de pénalité, c'est clair et net. Mais avec les nouveaux observables qui sont amenés par World Rugby, ce type d'action pourrait être amené à évoluer.
Oui, on en prend note pour la prochaine fois. On n'a pas été informé de ces nouvelles directives, donc. Pas surpris par rapport à la décision de l'arbitre de ce week-end. Maintenant, avec les nouvelles directives, peut-être qu'on aurait réfléchi et pensé autrement. Mais sur le coup, la faute pour moi était évidente et Philippot a plus personne devant quoi.
Alors juste après, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'émission, mais David, quand on est entraîneur, quand on est dans ce rugby pro. Comment on fait en se disant d'habitude c'est chaque année qu'on a le lot de nouvelles règles, de nouvelles interprétations de la même situation. Là maintenant ça peut arriver en cours de saison.
Ouais, ça peut arriver de toutes parts, de n'importe où, de World Rugby, de la FFR, de Rugby Europe. Il faut juste qu'on soit informé et qu'on s'adapte, comme on le fait à chaque fois. On essaie de s'adapter à tout ce qui nous est imposé entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais bon, je pense que les arbitres aussi sont beaucoup plus embêtés que nous, puisque on leur pose aussi des nouvelles directives tous les 15 jours, 3 semaines. Donc c'est aussi difficile pour eux, quoi.
Ouais, c'est pour ça que quand on est au stade, c'est peut-être pas la peine de s'énerver à chaque fois sur chaque action, les gars, parce que on n'est pas au courant de tous les observables. On passe à l'actu du Castres Olympique.
100% CO, l'émission officielle des supporters du Castres Olympique.
Allez, l'actu, en bref, du CO, c'est bien sûr l'homme du match, comme après chaque rencontre, c'est vous les supporters qui élisez l'homme du match, c'est Benjamin Rodapieta qui a été élu, vous votez sur l'application du CO, deuxième fois, voilà, deux matchs, deux fois. Pour l'instant, de toute façon, on n'a que deux hommes du match différents depuis le début de la saison, Santi Arata et Urdapieta, je me demande s'il n'y a pas un petit Tom Staniforce qui s'est intercalé, mais voilà. Ensuite, je voulais vous parler de la vente aux enchères, c'est au profit d'Octobre Rose, les joueurs du club ont mis les maillots qu'ils ont portés face à Bayonne aux enchères. Vous avez le lien sur le site du Castres Olympique. Allez y jeter un œil. Il y a déjà des bonnes enchères hein, pour vous donner des exemples. Les maillots de Wilfried Oumpatin ou de Benjamin Rodapieta, on est presque à 300 euros pour l'instant pour le maillot porté et dédicacé. Et puis, dans l'actu du CO, c'était passé un petit peu inaperçu, mais moi j'aime bien. Je vous encourage à aller jeter un œil. Ce sont des entretiens réalisés par Rodrigo Capo Ortega qui rencontre des joueurs, des anciens joueurs du club.
J'ai vu ça.
Et puis qui fait petite interview avec eux, c'est assez sympa. Le format vidéo est plutôt classe, donc on va peut-être d'ailleurs reprendre le concept. On va voir si on peut pas nous recruter Capo pour ça.
Et en plus, il va chercher des bons clients. Là, j'ai bien aimé cette semaine.
Ouais, avec Lucas Pointu, très sympa. Voilà pour l'actu du CO. On va parler bien entendu de ce match contre Bayonne.
100% CO. Toute l'actu du Castres Olympique.
Allez, le retour donc sur cette rencontre, c'est avec toi Jean-Marie, la belle victoire, 39-22, victoire qui fait du bien. Qu'est-ce que t'en as pensé Jean-Marie Lenz de ce match?
Ben déjà j'étais assez soulagé sans être forcément parti pris parce que quand je l'avais annoncé, Bayonne pour moi c'était vraiment plus qu'un promu, et il y avait vraiment un match piège, donc déjà on a évité l'écueil et on a maintenu les Castres ont maintenu évidemment cette invincibilité à domicile. Tu as évoqué l'homme du match évidemment. À 58 ans, hein, comme pourrait le dire Pierre-Henri Broncan, c'est pas trop mal quand même, au-delà de sa gestion du match, de ses 5 pénalités, de ses 2 transfos. Il nous a encore claqué un drop monumental de plus de 40 mètres, qui en plus à ce moment-là du match, je trouve, fait très mal au Bayonnais. Parlons aussi peut-être de Tyler Hardron, hein, qui au-delà de son apport dans le combat, dans les airs, dans le lien avant trois quarts, a effectué un très bon retour après une longue blessure. Donc hommage à ses efforts et à ceux du staff médical, du staff de préparation physique aussi qui travaille vraiment au quotidien avec les joueurs. Et puis on aurait pu citer Palisse qui a encore marqué un bel essai qui confirme son bon début de saison. Mais petit hommage à Gauthier Doubrère qui vivait sa première titularisation qui plus est à domicile. Il a assuré sur les fondamentaux, il a offert l'essai en passe D sur l'essai de Kokaji. Bravo à lui, à Julien Blanc aussi qui l'a remplacé à la mêlée.
Alors on profite, merci Jean-Marie, on profite d'avoir David Daricarrère avec nous. On est lundi, hein, au moment où on enregistre cette émission. On sait que le lundi forcément il y a un débrief, il y a une séance vidéo avant de basculer sur le prochain match. Qu'est-ce que vous avez ressorti avec Pierre-Henri Boncan aux joueurs de suite à cette rencontre?
Ça a oscillé entre se faire taper sur les doigts et se faire féliciter. Se faire féliciter d'abord parce que c'est une belle victoire. Hein. Mettre autant de points à une équipe, c'est jamais évident. Et puis mettre des piqûres de rappel aussi sur des choses qui nous ont pas permis de faire un match plein à 100%. C'est le cas de le dire ici. Mais au final plutôt très satisfait du match, mais il faut qu'on avance et ces matchs là vont nous servir aussi à avancer.
Est-ce que, alors je savais poser la question il y a quelques matchs, encore une fois il y a un bonus qui à un moment de la rencontre paraît accessible, finalement on le prend pas. Tu m'avais dit à l'époque, on s'occupe pas de ça, les bonus, c'est pas quelque chose auquel on a envie de penser, faut d'abord gagner les matchs, etc. Est-ce que c'est toujours la position, ou est-ce que on commence à se dire, bon, ça peut manquer aussi en fin de saison?
Oui, on pourrait se poser cette question-là, évidemment, surtout sur les deux derniers ballons positifs qu'on a à la fin du match, où on peut aller le chercher. On est allé le chercher l'an dernier sous la pluie face au Racing, au bout de 20 ans de jeu, avec un superbe essai qui avait enflammé Pierre Fabre.
C'est vrai.
On aurait pu l'enflammer aussi ce week-end. On l'a pas bien géré, mais il faut savoir que ce championnat est très dense, que je veux dire, on l'a vu encore samedi, les équipes sont très dures à battre, il faut s'employer vraiment très très fort. Donc obtenir la victoire, surtout avoir un contenu intéressant, c'est ce qui nous intéresse le plus, quoi.
Voilà pour le retour, hein, sur ce match face à Bayonne. On va passer à la partie de l'invité. On va en profiter d'avoir David Daricarrère avec nous.
100% CO, l'interview.
Avec cette question, David, que je voudrais te poser, est-ce que tu es un homme heureux? Alors, professionnellement, hein, on fait pas non plus la psychologie, hein, te livre pas trop, mais est-ce que tu t'éclates dans ce rugby pro au jour d'aujourd'hui?
Ouais, bien sûr, ça fait plus de 15 ans que j'y suis dans ce rugby pro, donc forcément, ouais, tous les matins, moi, je pars au Levezou avec la banane, avec vraiment l'envie de partager ma passion avec mes joueurs. Bon, c'est même plus un métier, c'est une passion pour moi, mais il faut que j'arrive à continuer à la faire partager. C'est pour ça que je y a une remise en question tous les jours, toutes les semaines, tous les matchs, avec l'envie de chercher de choses nouvelles, et surtout de faire progresser tous les joueurs dans des domaines bien spécifiques.
Est-ce que tu as un rêve rugbystique, une ambition spéciale, quelque chose que tu considères ce qui pourrait être le pic, le sommet de ta carrière?
Être champion du monde, mais cette fois-ci avec les grands. Non, je pense que c'est l'objectif ultime pour tout le monde, mais bon. Aujourd'hui, mon vrai bonheur, ça serait d'être champion de France avec le CO, enfin, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça, parce que t'as connu deux finales quand même. Deux fois vice-champion de France.
Deux finales, une Toulon, une Montpellier, avec deux trajectoires complètement différentes, mais voilà, ça serait vraiment un pur bonheur de pouvoir partager ça avec les Castrés, ouais.
David et Jean-Marie, je sais que vous aviez des questions. Jean-Marie, peut-être d'abord une question pour David.
Oui, David, le CO est une référence en matière de recrutement malin, faisant confiance à des jeunes à haut potentiel, joueurs de Pro D2, des étrangers. Alors, sans tout dévoiler de vos secrets, comment s'organise justement votre cellule de recrutement qui est louée par toute la France?
Elle tourne autour de très peu de personnes qui regardent beaucoup, beaucoup de matchs. de beaucoup de divisions et de beaucoup de championnats même étrangers, voilà. Avec on est fan, hein, on est fan de ça, on est fan de regarder du rugby en permanence, on est fan de découvrir des joueurs, des jeunes, des moins jeunes, mais voilà, des potentiels, en se disant que voilà, leur marge de progression est super intéressante, et on pense que qu'avec beaucoup de travail, parce que c'est ça qui nous caractérise aussi, qu'avec beaucoup de travail on arrivera à leur faire passer le cap.
Ça, c'est intéressant. Tu disais, toi, t'aimes faire progresser les joueurs aussi. C'est quelque chose qui te branche. Il y a le côté entraîneur, il y a un côté presque un petit peu éducateur finalement, de se dire, ben voilà, ce joueur, je l'ai pris à tel niveau et on arrive à l'amener à tel niveau.
Non, mais bien sûr que c'est intéressant pour un entraîneur de faire progresser individuellement des joueurs, mais aussi de faire progresser collectivement une équipe. C'est toujours très intéressant de pouvoir façonner des joueurs et une équipe de telle façon qu'elle va progresser, qu'elle en a sous la pédale et qu'on peut voir court, moyen et long terme. Je pense que c'est hyper important. Après, c'est complètement différent d'entraîner une sélection. Je l'ai vécu avec les meilleurs joueurs des meilleures générations, où là, forcément, on est un peu plus dans le détail et un peu moins dans le développement, quoi.
David, Juanito, tu avais une question.
Ouais, David, je vais partir sur une phrase de Grégory Patate qui, après le match, a dit: c'est très difficile d'enrayer cette machine castraise quand elle avance. Dans le débrief, tu disais tout à l'heure que ça avait sûrement parlé de bons et de moins bons. Depuis le début de saison, l'Aveyron Bayonnais se montrait très efficace près de l'embut adverse. Il me semble quand même qu'ils sont venus un petit moment près de la ligne et qu'on a tenu le coup. Est-ce que ça, c'est quand même pas un peu nouveau sur ce dernier match par rapport au début de saison?
Bah, c'est vrai qu'on a mis on avait mis un peu le focus là-dessus, en disant voilà, que quand les adversaires venaient proche de notre ligne, ils marquaient un peu trop facilement. Quand on a le dernier match contre Montpellier, ils sont venus une fois, ils ont marqué sur quelque chose d'assez simple, d'assez basique. Donc on avait voulu faire un focus là-dessus pour que justement être un peu plus âpre près de notre ligne pour pouvoir ne pas encaisser l'essai. Voilà, on a su le faire pendant un bon bout de temps contre Bayonne, et voilà, il faut continuer à ancrer ça et pas donner de points faciles aux adversaires.
C'est un peu avec ça qu'on est allé au Stade de France l'année dernière, non?
Ouais. mais pas que.
Il y avait un peu de ça, l'état d'esprit, le fameux état d'esprit casté. David, c'est quel joueur qui t'a le plus marqué, toi, dans ta carrière d'entraîneur?
J'en ai vu un paquet. J'ai suivi des joueurs tout au long de leur carrière, même depuis Benjamin Minim.
Ah, qui est par exemple les...
Rémi Thalès, que ouais. J'ai entraîné en Benjamin et que j'ai joué avec lui, et je l'ai re-entraîné à Castres. Donc c'était particulier. En termes de potentiel, la génération, les deux générations que j'ai eues, les moins de 20, ce sont des joueurs qui vont devenir de très très grands joueurs, d'autres qui le sont déjà. Donc c'était intéressant de toucher ces gamins-là. Après, voilà, il y a des Rémi Lamorin, des Brice Dulin, ouais. Notamment ici, qui étaient très performants, et ce qui est plus intéressant, c'est que c'est surtout des passionnés avec lesquels on peut évidemment parler de rugby toute la journée, quoi.
Un mot, David, sur ton effectif au sein du Castres Olympique. Antoine Tichit, qui est venu dans cette émission il y a quelques semaines, nous disait que sur le papier, en termes de qualité, il disait que c'est le plus bel effectif qu'il ait connu, lui, dans sa carrière au Castres Olympique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que par rapport à ce que tu as pu connaître avant, tu sens que le club est peut-être le mieux armé qu'il l'ait été depuis longtemps?
Bah, aujourd'hui, en termes de... Quand on gère un effectif, en termes de quantité, de qualité, c'est vrai qu'on est assez fourni, qu'on est assez complet, surtout avec des joueurs en devenir qui progressent et qui progressent vite. Donc ça, c'est très très intéressant pour nous. On le voit aux entraînements toutes les semaines. Ça progresse, ça bosse énormément, et c'est ce qui fait que cet effectif est assez homogène. C'est que au contact de l'expérience, les jeunes progressent plus vite, et au contact de la jeunesse, les vieux sautichent, entre guillemets. Donc c'est hyper intéressant, ça tire tout le monde vers le haut, et c'est ça qui est intéressant pour l'équipe.
Un qui aimait tirer les autres vers le haut, et un qui a énormément d'expérience aussi, c'est Loïc Jacquet. Loïc Jacquet qui tient une chronique, David, dans cette émission, et on va écouter la chronique du Loïc. Il nous livre son sentiment, écoutez.
100% CO. La chronique de Loïc Jacquet.
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intimité du vestiaire autour du match. La semaine dernière, nous nous étions arrêtés à la sortie du bus. Reprenons donc à cet endroit. Sortie du bus donc et passage à travers les supporters qui crient, chantent, frappent des mains, encouragent. On prend à ce moment-là une bonne dose d'adrénaline. On se rend compte pourquoi et pour qui on joue. Arrivé au vestiaire et la traditionnelle tape dans la main de notre PAC régional, Pierre-Alain Cizek, intendant infatigable du CO, aussi dévoué que drôle, aussi gentil que supporter de Groyer et qui fêtera le 1er novembre ses 80 ans. Dans le vestiaire, tout est déjà en place. Maillot de match, d'échauffement, shorts, chaussettes, serviettes, chasubles et parka pour les remplaçants. Les crampons déjà déposés la veille sont aussi présents, tout comme la tenue d'après-match. Sur la table, au milieu du vestiaire, barre énergétique ou de céréales, eau, Powerade, Red Bull, chewing-gum, amandes, machine à café, tout est là pour se préparer au mieux. Certains ressortent directement après être entrés pour aller voir la pelouse, d'autres s'attellent déjà à changer leurs crampons ou finir de se strapper. Chacun se prépare individuellement, souvent en musique avec un casque sur les oreilles, ce qui peut donner lieu à 2-3 pas de danse ou à quelqu'un qui chante fort alors qu'il pensait fredonner. Dans l'ensemble, le mélange se fait entre bruit de strap, silence et odeur d'huile de massage. Les trois quarts sortent un à un pour aller taper quelques coups de pied. Les avants restent pour sortir tous ensemble juste avant l'échauffement. Un petit speech entre eux, mais on est loin des grands coups de casque que l'on se mettait déjà jadis et qui, s'ils augmentaient le niveau d'énervement, faisaient aussi gonfler les statistiques de commotion. Retour de l'échauffement de toute l'équipe et derniers ajustements personnels, maillot, protège-dents, les visages sont fermés, la concentration est visible dans les yeux des guerriers prêts à entrer dans cette belle arène de Pierre Fabre. Dernier discours de Pierre-Henri, qui en fonction du contexte du classement, de la semaine ou de l'échauffement, monte plus ou moins vite dans les décibels. Dernier discours du capitaine et le fameux 1, 2, 3, CO, qui annonce la sortie dans le couloir, où les remplaçants et leur groupe crient et encouragent à travers parfois quelques claques et nuquettes virulentes les guerriers prêts à entrer. Les adversaires sont là, quasi épaule contre épaule. L'arbitre siffle. La foule explose. Les gladiateurs sortent.
Loïc Jacquet qui met de plus en plus de poésie dans ses chroniques, de David Daricarrère, qui est, je vois que tu l'as retrouvé là, le Jacquet que tu connais.
Non, c'est bien, c'est génial, en plus une expérience comme celle de Loïc qui a trimballé sa carcasse sur tous les terrains de France. Non mais c'est voilà, c'est les vestiaires, ça reste un endroit mythique, mystique, magique, et inoubliable, quoi, là, quand on a connu ça déjà tout petit, c'est difficile de s'en passer.
Ouais, c'est ça, et on entend que ça lui manque. Allô, Loïc Jacquet. Allez, le Castres Olympique, bien sûr, c'est le top 14 qui continue, qui se poursuit avec un très très gros match qui s'annonce. Ça, ce sera ta partie, Jean-Marie, puisque c'est toi qui vas aller le commenter. Parle-nous un peu de la prochaine rencontre du CO.
Direction la rade de Toulon, en effet, où ça s'était bien passé la saison dernière avec une victoire et un récital, rappelez-vous, de Cocotte et Roda Pileta. Mais attention, hein, car le RCT va mieux cette saison, compte le même nombre de points d'ailleurs au classement que le CO et voudra battre un concurrent direct à la qualif et rester invaincu cette saison à Mayol. Rendez-vous tous à partir de 16h30 pour l'avant-match, donc du coup, et puis le direct en intégralité avec les analyses d'Alain Gaillard.
Merci beaucoup Jean-Marie, on suivra ça de très près. Juste un mot David, cette rencontre à Toulon, vous allez l'aborder comment ?
Oh, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. On sait ce qui nous attend là-bas. Voilà, c'est une équipe portée aussi par un public, par un stade en fusion. Donc
une équipe qui va mieux aussi.
Ouais, une équipe qui va beaucoup mieux, qui a aussi plus de 21 internationaux dans son groupe. Donc voilà, beaucoup de qualité dans tous les domaines, dans toutes les lignes. On va se mettre devant, on va se présenter, comme on dit, et puis on le prépare de la meilleure des façons, avec deux victoires dans la poche. Donc voilà, il faut qu'on y aille vraiment avec nos armes et qu'on joue le jeu du CO.
Merci beaucoup David Daricarrère d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio 200%. Merci Jean-Marie Hens, merci Juanito David Petitjean.
Merci.
On vous dit à très bientôt pour un prochain 100% CO. Ciao.